Il y en a un qui est plus petit pour le plus jeune, puis l'autre qui est un peu plus gros pour mon plus vieux. Puis je suis allé faire ça avec mon plus jeune, c'est la piste cyclable. Puis j'étais pas le seul, là. Il y en a qui ont des trucs.
T'es capable de faire ça, toi?
Ben oui.
Un vieux comme toi.
J'avais même pas de casque.
T'as appris ça où?
Je vais peut-être être un de vos clients à un moment donné.
Ben
j'avais pas de casque
ça.
En plus.
Arrive-moi avec une fracture, toi. Une facture, ça va. Une fracture, je serais plus fâché.
Ouais, t'as rien appris en 7-8 ans de collaboration, ouais. Marceau?
Non, mais des fois, ça m'arrive d'engueuler quelqu'un.
Ben, c'est sûr.
T'as pas lu le papier, t'as pas regardé, Mais podcast, non, mais regarde, écoute.
Je fais partie de la génération des invincibles.
Une commotion, là, ça prend. T'es même pas juste te frapper la tête, hein?
Ouais.
Une bonne secousse, à un moment donné, la tête, l'important, c'est que le cerveau bouge. Si le cerveau bouge, t'es faite, t'es commotionné, puis là, t'es mal à la tête, puis tu vas embrouiller, puis...
Mais la mère...
Je te souhaite pas ça. T'as pas besoin de ça, fais ta job. Là.
La mère de mes enfants, Maître Bellemare, vous dirait bien que c'est pas deux trois commotions cérébrales qui vont changer quelque chose dans ma tête, là.
Ah ouais? OK, c'est ça, t'es déjà en dessous. Non, je pense que tu t'exprimes bien.
Oui, bon, OK, merci.
Le contenu, c'est moins sûr, mais l'expression est parfaite.
On a besoin des avocats pour amener un peu de contenu. Mais ça, c'est un point, par exemple, parce que oui, il y a des vélos sur les pistes cyclables. Bon, il y en a qui ont des casques, il y en a qui n'ont pas de casque, mais ça c'est pas le point là, qu'on veut débattre ici. Il y en a qui sont des piétons, dont je fais partie. Il y en a qui sont des coureurs. Parfois, j'en fais partie. Il y en a qui promènent leurs chiens sur les pistes cyclables. Et là, les trucs électriques, là, les motos électriques avec
trafic,
des pédales...
plus que sur l'autoroute.
Il y en a pour les fous puis les fins actuellement sur les pistes cyclables. Puis je me dis, est-ce qu'à un moment donné, ils vont légiférer? Parce que là, on a la belle vie. Là. Je peux vous dire qu'avec mes gars, quand on va faire le fameux overboard là, sur la piste cyclable, dans le secteur de Val-Bélair, c'est de toute beauté, puis j'ai bien du plaisir. Mais le jour où les policiers vont dire, t'as peut-être, oui, à quelle vitesse tu vas avec ça? Puis t'as-tu ton casque? Puis... t'es pas plaqué, toi! Ouais. Ça se peut qu'il légifère à un moment donné.
Ben, les pistes cyclables, en principe, c'était fait pour les vélos, tu sais.
Ouais.
À un moment donné, je m'en allais, j'ai pris une méchante débarque. J'étais dans le bout de Beauport, là, tu sais, quand tu quittes, quand tu traverses le... Moi, je partais de Sillery, le Vieux-Québec, après ça, Marché, le marché de l'époque, là, mm-hmm. le marché qui était là. Et après ça, tu passes en dessous des autoroutes, tu passes à côté de la Reed Paper, l'Anglo, là, bon. Et il y a un petit segment, juste avant d'arriver à Méseret, où là, il y avait un gars qui s'en venait avec son vélo. Puis moi, je le voyais, mais en arrière de lui, il y avait 3-4 enfants avec des basiques, là, un peu, tu sais, des roues de bang, là.
Ouais.
Puis lui, je comprends, c'est un père de famille. On s'en va prendre l'air, puis il part. Je pense qu'il y avait 3 enfants. Puis à un moment donné, je vois que derrière lui, parce que de loin, je ne voyais pas, je pensais qu'il était tout seul. Fait que je m'alignais assez solide, t'sais. C'est-à-dire, je roulais peut-être à 27-28. Je prenais mon élan. Puis à un moment donné, je vois sortir cette marmaille-là derrière lui. Ça a fait comme un...
Ils ont écarté
toute la piste. Ouais. Puis là, il y en a un qui décide, un petit gars qui décide de faire demi-tour. Il voulait parler à son grand frère, j'imagine.
Ouais.
Fait qu'il s'est retourné, puis évidemment, en se tournant, il a empiété sur ma piste. Moi, j'ai pris le clos. J'ai pris le gazon. Puis là, je t'ai pris une maudite débarque. Puis une débarque en bicycle, là. C'est pas drôle. Tu pars de loin, tu sais, tu tombes à terre, t'es pas habitué à ça, tu sais, puis surtout à mon âge, on est moins habitué de tomber.
Et savais-tu que c'était vous?
Je sais pas, puis je suis sûr que le gars m'a pas reconnu, ou je pense pas qu'il m'ait reconnu, en tout cas, il a pas fait trop de cas.
Planter Maître Bellemare.
Moi, j'ai fait une bonne débarque, puis ça monte jusqu'à quel point les pistes cyclables, effectivement, c'est devenu dangereux. Faut être prudent. Puis tu sais, si tu vas là pour rouler, pour avoir du fun, parce que... Pour avoir du fun, il faut que tu roules. Moi, je me promenais à pépère à 10 km/h. Je suis aussi bien de marcher. Là. Si je veux aller en vélo, je veux avoir du fun, puis je veux que ça aille à ma vitesse, entre 25 et 30 km/h. Puis à ce moment-là, les fins de semaine, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire.
Ouais.
J'en faisais la semaine. Quand je faisais des longues distances, j'allais la semaine parce qu'il y a moins de monde.
C'est que là, les véhicules électriques qu'on peut avoir sur les pistes cyclables peuvent atteindre des vitesses qui sont incroyables là, pour un vélo électrique ou encore une trottinette.
Ben, j'ai vu une trottinette 30 encore. 40, probablement.
Ben, une trottinette, ça peut monter jusqu'à 70-80. Ils sont capables de les booster.
Quand tu dis que t'as rien, là, t'es pas protégé. Là.
Ouais, ouais.
T'as pas une carcasse, t'as pas un siège, puis un volant, puis une ceinture. Là.
Ah non.
T'es vraiment... Si tu plantes, là,
ça graphique
tu vas planer.
Ouais, ouais.
Ah, tu peux te tuer. Là.
Exact, exact. Hey, c'est la journée Michel Côté, malheureusement, le comédien Michel Côté qui nous a quittés. Un gars qui est né en 1950-2023, fait que ça fait presque 73 ans.
Là, facile à compter.
C'était quand sa fête. Ouais. Et c'est un personnage qui a marqué les époques. Là. Moi, je l'ai connu dans les années 80, je dirais, avec Cruising Bar. Là. Mais il a commencé sa carrière dans les mi-70 à peu près. Quelle longue carrière, ouais, une belle carrière.
C'est un bon acteur.
C'est un bon
sympathique.
Un bon acteur.
Moi, je l'ai rencontré à l'Hôtel de Ville de Québec. À un moment donné, il y avait un vernissage qui avait été fait par le maire Labombe, ouais, un artiste de Québec qui est décédé aujourd'hui, puis il était là. Puis moi, je me souviens surtout de Crazy puis de Cruising Bar. Cruising Bar. J'espère que, bon, à l'occasion de son décès, qu'on va revoir ses films.
Ben oui.
Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est un chef-d'œuvre. Il faut attendre qu'il y ait un mort pour qu'on parle de lui puis ouais, qu'on dise à quel point il était bon. C'est souvent la vie est mal faite dans un certain sens. Mais qu'on remonte ces films-là. Cruising Bar, là, c'est un classique québécois. C'est un des meilleurs films que j'ai vu. Bien fait, bien monté. Drôle, sympathique. Il joue quatre personnages, je pense, là-dedans.
Ouais.
Et puis, il y a Louise Marleau qui a donné.
Mon Gérard, c'est préféré.
Il y a des bons acteurs dans le film. Une belle distribution. Et puis, c'est un éternel film là, qui va durer ouais, longtemps et qui est encore d'actualité, évidemment, parce que le cruising, c'est comme peut-être pas le plus vieux métier du monde, mais la plus vieille activité, à tout le moins.
Mais maladie de la moelle osseuse, c'est de ça qu'il serait décédé. Puis j'écoutais tantôt des témoignages de personnes qui l'ont côtoyé dans les derniers mois puis qui ont mentionné que lui espérait qu'à un moment donné, tout ça, ça allait être derrière lui puis il allait pouvoir continuer sa carrière. C'est non, c'est d'une tristesse. Puis c'est ça. Moi, je l'ai rencontré quelques minutes. Là. Puis c'est comme je l'avais connu, Cruising Bar, le gars relax, détendu. Je m'attendais un peu à ce genre de personnage-là. Alors que dans la vie, c'est un gars qui était très timide, qui avait un français qui était impeccable, qui était très poli avec tout le monde. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, mais c'est ça, je l'ai rencontré quelques minutes, là, donc pas assez pour vous dire que c'était le même personnage qu'on pouvait voir. Là, il y avait ses personnages à lui. Ses personnages à lui étaient un peu déjantés. Lui était bien ordinaire, mais c'est un acteur extraordinaire.
Il n'a pas fait le commandant Piché aussi, le gars, oui, qui avait sauvé son équipe, sa cargaison, pas sa cargaison, mais les passagers, je pense 300 personnes, ouais, avec Air Transat, quand il avait atterri aux îles Açores.
C'est lui qui avait personnalisé
le commandant Piché. En plein milieu de l'océan. Et puis je pense qu'il était devenu un bon copain du commandant Piché suite à ça. Ça, c'est un excellent film aussi, mais un peu plus sérieux, évidemment, mais quand même biographique là, pour le commandant Piché, qui va certainement avoir beaucoup de peine aujourd'hui.
Exact. Maître Bellemare, on a plein de dossiers à aborder aujourd'hui, des petits dossiers en commençant là, avec François Bonnardel qui annonce que Québec va verser 5,7 millions de dollars sur 5 ans pour la création d'une nouvelle équipe. On veut essayer d'empêcher les violences armées à Montréal. On en a contre les armes illégales, mais on dirait que c'est juste une distribution d'argent. Là, ce qu'on veut, c'est intensifier la présence policière dans des endroits qui seraient fréquentés par le crime organisé. Mais il n'y a pas plus de monde qui surveille sur les plans d'eau, tu sais, entre les États-Unis et le Canada. Tu sais, on sait que Québec étant une porte d'entrée, là, on sait par où ça passe. Ça passe par des réserves. Il n'y a pas plus de présence policière là. Non, c'est dans le secteur de Montréal, puis on va mettre des voitures, là, puis là, on va démontrer notre présence. Puis ça, c'est, on dit lapide, 5,7 millions. On dirait que pour certains, aujourd'hui, 5,7 millions, c'est pas d'argent. Puis en plus, c'est sur 5 ans, fait que ça représente absolument rien. Je sais même pas pourquoi il en a fait l'annonce aujourd'hui, mais je me pose une question. On serait pas mieux de rehausser les sentences minimales pour ce qui est des gens qui se font prendre avec des armes à feu illégales? Une arme qui provient des États-Unis, qui se ramasse dans les mains d'un jeune de 20 ans à Montréal, on pourrait pas dire, à grandeur du Canada, c'est 5 ans minimum.
Oui, oui, on pourrait faire ça.
Parce que là, c'est 3 ans. Si vous vous faites prendre avec une arme illégale, c'est 3 ans. À la deuxième fois, c'est 5 ans. Puis à la troisième fois, ben là, j'imagine que ça doit être encore 5 ans.
Oui, c'est ça. Mais le gouvernement Trudeau est un peu allergique aux peines minimales. Le peine minimale, c'était le dada du gouvernement Harper.
Ouais.
Et puis, il avait imposé un paquet de peines minimales. On se souvient, notamment dans le cas du tueur de la mosquée, là, il y avait 25 ans qui pouvaient être additionnés par le nombre de crimes. Finalement, la Cour suprême a mis la hache là-dedans. Et le gouvernement Trudeau a modifié plusieurs lois que Harper avait fait adopter qui imposaient des peines minimales. Et les juges sont plutôt allergiques à ça, ce concept-là, en disant que ça limite notre liberté de décider, parce qu'il y a des cas où la peine minimale ne s'applique pas. Moi, je suis un fan fini des peines minimales, parce que je me dis, le jour où on sait que la société canadienne est rendue là, les gens sont écœurés, par exemple, des agressions d'enfants, des agressions sexuelles.
Ouais.
Alors, on peut dire, une agression sexuelle, c'est un an minimum, 2 ans minimum, possession d'armes, c'est 3 ans, 5 ans. Si on pense que la société canadienne est rendue là, pourquoi on permettrait à un juge d'imposer moins si tout le monde y a un consensus?
Exact.
Alors, à ce moment-là, une peine minimale devrait s'imposer, mais je te le dis, le gouvernement Trudeau, il y a même, je pense, c'est pas la loi C5 dont on a parlé il n'y a pas longtemps, là, où il a décidé, le gouvernement Trudeau, d'abolir les peines minimales à cause qu'il y avait trop d'Autochtones dans les prisons.
Autochtones et Noirs.
Un prétexte complètement ridicule, parce que ça ne veut pas dire que c'est juste des Autochtones qui commettent ces crimes-là. Mais Trudeau avait trouvé une façon d'abolir les peines minimales puis de permettre aux juges de mettre des peines...
Non, puis les Blancs...
La peine qu'ils jugent opportune.
Puis il y a certains Blancs qui ont bénéficié de cette fameuse C5-là aussi. Mais
oui.
Je pense que c'est...
Mais ça, c'est fédéral, mais il faudrait que la CAQ fasse des revendications, parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale ne peut pas légiférer sur le code criminel et imposer une peine minimale. C'est Ottawa qui peut le faire.
Mais c'est dissuasif dans le métro. Si vous faites prendre avec une arme à feu
illégale,
c'est
dissuasif. Bien, c'est sûr.
C'est 5 ans
C'est 5
minimum.
Ans, puis viens pas chialer puis me dire que c'est la première fois, puis que t'es un bon gars, puis que t'as pas compris, puis que tu pensais autrement, puis que t'es réadaptable dans un autre domaine. C'est une peine minimale. C'est ça l'intérêt d'une peine minimale. C'est que ça te permet de faire la promotion du code criminel en disant si tu te fais pincer, t'en as pas d'excuse, ça va être minimum 5 ans.
Ouais. Tu sais, je suis pas un spécialiste pour contrer le crime, là, mais on nous dit que Montréal est aux prises avec une vague de violence par arme à feu et ça arrive surtout l'été. Et là, on nous dit qu'une genre de task force, donc 10 policiers qui vont travailler pendant quelques années pour se faire voir, donc des opérations de visibilité dans les établissements et les endroits où sont fréquentés par les membres de gangs de rue. T'sais. Mais concrètement, qu'est-ce qui va se faire sur le terrain? T'sais? En bout de ligne, c'est juste des policiers qui vont se promener. Est-ce qu'ils vont fouiller dans les poches des jeunes? Mais non, c'est sûr qu'ils
peuvent pas. Les policiers sont contents d'avoir un peu d'argent, puis la CAQ fait une annonce, puis ça demeure une annonce politique. T'sais.
Exact.
On dit, on met tant d'argent, c'est pas vrai, on va budgéter tant d'argent. Ça va s'adresser au service policier, mais va voir dans 5 ans où est rendue cette somme-là. Est-ce qu'elle a véritablement été dépensée? Est-ce qu'elle a véritablement été dépensée pour les fins auxquelles elle était destinée? On ne sait jamais. C'est des annonces politiques. Ça permet à la CAQ de dire, on a fait quelque chose, on a mis 5,7 millions. Voyez comme on est préoccupé par le phénomène. Ça fait la nouvelle. On en parle aujourd'hui. Ils sont contents. Mais dans les faits, est-ce que cet argent-là va aller aux bonnes places? Puis est-ce qu'on va avoir des résultats? Ça n'intéresse personne. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir dire on a mis 5,7 millions aux prochaines élections, de dire on a mis 5,7 millions en 2023, vous souvenez-vous, ta. C'est une préoccupation politique essentiellement. Dans quelle mesure le ministre, lui, est convaincu que cet investissement-là va donner des résultats? Est-ce qu'il a fait les études pour?
Ben non.
Probablement autant qu'il en a fait le troisième lien, là, des études napkins.
On dilapide les fonds publics pour se donner une bonne conscience.
Ben c'est souvent ça quoi je pense. Quand je vois des annonces comme ça, tant d'argent, des enveloppes, des montants, les journalistes souvent vont relayer cette nouvelle-là de façon un peu servile, en reprenant le communiqué, puis en questionnant pas trop, en disant « 5,7 millions, moi j'ai une job à faire, il y a un titre là-dessus ». Sauf que c'est bon pour le gouvernement. C'est bon pour la CAQ.
Mais si Québec est si dans le trouble que ça avec la violence armée à Montréal, devrait faire front commun avec d'autres provinces, probablement l'Ontario, là, avec Toronto, qui irait voir Justin Trudeau et ses amis pour leur dire « là, il faut durcir les sentences pour ce qui est des armes à feu illégales, la détention ». Là, je le répète, là, la loi, c'est la première fois que tu te fais prendre, c'est 3 ans, la deuxième fois, c'est 5 ans, puis après ça, ben, ce sera au juge de décider. Mais si dans le métro, c'est écrit « regarde, mon homme, t'as 18 ans, t'as une arme à feu illégale dans tes poches, si tu te fais prendre, c'est 5 ans minimum », c'est dissuasif.
C'est dissuasif, puis c'est le genre de publicité importante. Moi, je me souviens d'être allé en Thaïlande à un moment donné et d'avoir vu sur des panneaux, si vous touchez à un jeune mineur sexuellement, je pense que c'est 5 ans de prison. Puis c'est des gros panneaux sur le bord de l'autoroute, là, tu sais. Alors, plutôt que de mettre des annonces style « on a un bon système de santé, acheter des billets de l'auto », tu sais, pourquoi ils ne mettraient pas des annonces de type « répression, si tu fais ça, etc. »
Voici ta sentence, c'est ça.
Parce que les criminels voient ces panneaux-là, ils voient ces publicités-là, ils s'en parlent, puis au moins ils le savent. Parce que je suis pas sûr, moi, que les petits gars là, qui se promènent avec des armes illégales à Montréal, je parle des mineurs comme des majeurs, mais le gars de 19 ans, là, qui sait pas trop où il s'en va dans la vie, là, puis qui se promène avec une arme illégale, là, est-ce qu'il sait, lui, que c'est 3 ans s'il se fait pogner? Je pense pas qu'il le sache.
Non.
Il va le savoir s'il se fait prendre.
Ouais.
Mais si tu l'annonces, tu fais une forme d'anticipation, c'est, à mon avis, c'est une publicité qui est beaucoup plus importante en termes fonctionnels, beaucoup plus efficace que d'annoncer toutes sortes de niaiseries comme ils font. Parce que tu remarqueras que des publicités gouvernementales, souvent, c'est « Voyez comme on a un bon système. Voyez comme, tu sais, Télé-Québec annonce gratuit tout le temps, alors que c'est complètement faux. C'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit. On paye par nos taxes, nos impôts. » Alors, plutôt que de faire gratuit tout le temps, ils pourraient peut-être dire « Écoute, Coco, c'est 5 ans si tu te fais pogner avec une arme illégale. » Moi, j'aimerais bien mieux ça. Je trouve que ça serait mieux placé.
Mmh. Puis, tu sais, les réserves aussi, ça prendrait plus de présence policière. Oui, les policiers Mohawks essaient de faire leur possible, mais, tu sais, quand ton voisin d'à côté, c'est un trafiquant, puis il connaît toute ta famille, puis ta descendance, c'est un peu plus touché de l'arrêter, là.
Oui, c'est ça. Puis le fédéral, il est pas dans cette annonce-là, là.
Non.
Tu sais, les réserves indiennes, la RCMP, la GRC... Tu sais, les frontières...
Mais on est capable de patrouiller à l'extérieur aussi.
Oui, je le sais, je le sais, mais tu sais, pourquoi il n'y a pas une annonce à laquelle le fédéral aurait été lié? C'est sûr que la CAQ puis Trudeau, c'est clair que ça ne marche pas, surtout depuis la dernière élection où Legault avait appuyé les conservateurs. Mais il reste que, il me semble que c'est le type d'annonce où on s'attendrait à une forme de concertation compte tenu des pouvoirs du gouvernement fédéral. Un, sur le code criminel... Deux, sur les territoires autochtones. Trois, sur les frontières. Moi, j'aurais aimé ça que Bonardel soit assis à côté de Mark Fisher, je ne sais pas trop, là, le gars qui est le ministre, qui est un Montréalais, Mark Miller, je crois, qui est responsable des Autochtones. Ça aurait été bon qu'ils soient assis ensemble. Je pense qu'il peut se mettre peut-être son petit 5 millions, lui, ici. Ça, j'aurais trouvé que ça aurait été un geste concerté pour s'attaquer à ce phénomène-là. Là, c'est Bonardel. Bon, tu sais, penses-tu qu'un policier, toi, de la Sûreté du Québec, qui va se pointer sa réserve, là?
Non.
Non, non, ils vont même pas. Ils ont peur de se faire tuer, tu sais. Fait que c'est pas d'hier, là.
Peur de se faire tuer, je suis pas sûr, mais ils ont peur de pas se faire protéger. Parce que c'est sûr que Justin Trudeau va taper dessus. C'est sûr qu'il y a des gens issus de la communauté autochtone ou des défenseurs de la communauté autochtone qui vont dire « Tabarouette, de quoi vous vous mêlez, vous autres? C'est les policiers Mohawks qui devraient être là. C'est pas vous autres. » Fait que les policiers de la SQ veulent pas de merde, là. Fait qu'ils vont rester à l'extérieur, puis tu sais, si jamais il y a des suspicions comme quoi il y a un camion qui pourrait avoir des armes à feu illégales, ils vont peut-être l'intercepter, mais c'est de la poudre, c'est de la poudre de canon.
Ouais, sous peine de se faire accuser de
racisme,
de profilage raciste, parce que c'est des Autochtones, puis parce que ça s'est rendu compliqué.
Ouais, c'est plus facile d'arrêter les Hells Angels.
Le woke est très étendu dans ce domaine.
C'est plus facile d'arrêter les Hells Angels au Québec que d'arrêter un groupe criminalisé.
T'as le droit d'arrêter un Hells Angels blanc, dodu.
Ouais. Ah, s'il est dodu.
Francophone.
Ouais, si, mais pas dodu.
Francophone.
Ouais, c'est francophone, c'est quand même.
Avec une grosse moto.
Dodu, vous pourriez avoir des problèmes. Hein? Profilage de dodu. Hey, Maître Bellemare, on parle d'un autre dossier. Plus de 6 ans après le meurtre de Daphné Huard-Boudreau. Ça, c'est survenu à Mont-Saint-Hilaire. Ben, la famille de la jeune femme a décidé d'intenter une poursuite contre la régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Je pense qu'on s'y attendait tous, là. Vous avez été avocat de cette famille?
Oui, j'ai été avocat d'Éric, le père. Puis j'ai été avocat de la mère et j'ai été avocat de la belle-mère parce que j'ai fait reconnaître Éric avec les deux mères. Victime au niveau de l'IVAC, parce que l'IVAC ne voulait pas y payer en disant « vous n'êtes pas victime », mais ils ont été tous les trois présents sur la scène de crime. Ils ont vu sortir Daphné sous les draps blancs, inanimée, après que monsieur, je pense que c'est Lou, puisqu'il s'appelle là, Anthony, là, lui a tranché la gorge. Je pense que c'était en mars 2017.
Oui.
Alors, je me suis occupé de la famille, puis j'ai eu cet après-midi, par texto, la procédure, le communiqué qu'Éric m'a envoyé, tout content. Je suis très, très fier, parce que c'est le bureau d'Alain Arsenault, qui travaille beaucoup avec les victimes d'agressions sexuelles à Montréal, qui a décidé de prendre la cause. Un bureau très fier, très solide. Et puis, écoute, là, je pense qu'il n'y a pas grand-parent au Québec qui considère que la police a bien agi dans ce dossier-là. On se souviendra que le matin, à 5 heures du matin, la petite Daphné allait ouvrir le dépanneur à Saint-Hilaire. Elle arrive dans sa voiture et Anthony et son ex, avec qui elle venait de rompre, Anthony est assis dans l'auto puis il commence à y parler. Alors, elle dit « débarque », elle débarque de l'auto, il la suit jusqu'au dépanneur, puis là, il se met à la traiter de tous les noms, à l'insulter. Alors, elle appelle la police, il arrive 4 autos de police. Alors, oh, en tout cas, je ne sais pas si c'est 4 autos ou 4 policiers, mais en tout cas, il arrive à 4. Et là, elle se plaint, elle est intimidée, il est menaçant, et il vole son cellulaire. Il n'est pas arrêté. On lui laisse sa liberté. On ne l'intimide pas, alors qu'on aurait dû l'arrêter, à mon avis, parce qu'il y a des crimes qui sont commis. Menace, c'est un crime. Un vol, c'est un crime. Et ce gars-là avait des antécédents qui auraient pu être repérés facilement par les autorités policières. Et sur l'heure du midi, Daphné, pensant que son ex était en quelque part sur la Côte-Nord, parce qu'il avait dit au père de Daphné, « Je m'en vais sur la Côte-Nord, elle peut aller chercher son cellulaire, je l'ai laissé sur la table de cuisine. » Étant sûr de ça, s'en va voir la police et elle décide de se rendre au domicile, leur ancien domicile commun, à elle et à lui. Et en descendant, bien, il s'est caché derrière une porte, puis il a sorti un couteau, puis il l'a égorgé. Alors, plutôt que d'être sur la Côte-Nord, comme il avait dit au père de Daphné, il était en arrière de la porte, puis il l'attendait pour la tuer. Mais... Alors, la police a commis des erreurs importantes, à mon avis, puis ça mérite minimalement une poursuite en justice. Puis le million qui est demandé, je peux te dire que pour la souffrance qu'ils vivent, là, la perte de cette belle jeune fille-là, là, c'est un drame qui a secoué le Québec et qui mérite réparation.
Maître Virginie Dufresne-Lemire a mentionné que, bon, on a appris que la politique en matière de violence conjugale n'avait pas été appliquée correctement. Les policiers ajoutaient l'exigence d'une menace ou d'une blessure corporelle, ce qui n'est pas censé être le cas. Le processus n'a donc pas été enclenché comme le prévoit la directive. Et selon ce qu'on a appris au procès en déontologie, c'est au su de l'employeur. Donc, c'était une faute qui est quand même très, très, très importante. Et ils ont eu connaissance de cette faute-là. Et c'est la raison qui les aurait motivés à poursuivre. Les membres de la famille de Daphné avancent que les policiers auraient omis de prendre en compte des éléments afin de calculer le niveau de danger qui reposait contre la jeune femme. Et les répercussions de ces gestes-là ont causé aux membres de la famille des épisodes d'insomnie, d'anxiété et de dépression. Et la famille... Et là, on parle du père, de la mère et de la belle-mère, ainsi que de la sœur et du demi-frère qui réclament au total près $1 million en dommages et intérêts. Et d'après ce que je peux comprendre, ils ont de très bonnes chances de l'avoir.
Ben, en tout cas, je pense. En tout cas, je leur souhaite bonne chance là-dessus. Mais je te dirais aussi que les obligations des policiers, dans certains secteurs, dans certains domaines, comme la violence conjugale, il y a une expertise dans les services policiers. La prévisibilité, tu sais, la personne qui est victime... d'agression ou de menace dans le cas de violence conjugale. Tu as un conjoint violent qui te menace, etc. Jusqu'à quel point on doit dire « OK, la victime n'a pas demandé spécifiquement l'aide de la police ou n'a pas exigé d'être escortée par une police, on n'ira pas. » Tu sais, en quelque part, la police est là pour protéger aussi. Et des cas de violence conjugale, c'est extrêmement difficile pour une femme qui est victime de menace d'anticiper tout ce qui est possible comme scénario. Et c'est sûr que si les femmes savaient qu'elle allait être assassinée dans une demi-heure, ils demanderaient que la police d'être présente. Mais la police doit savoir, c'est un malade, c'est un gars qui a des antécédents. On doit bien l'investiguer, on doit le neutraliser. Et on est mieux de faire plus que moins dans ces situations-là. Alors là, qu'on ait laissé aller ce gars-là, puis dans l'avant-midi, vers 10h ou 11h le matin, avant de tuer Daphné, qui est arrivée vers midi et demi, le meurtre, il a envoyé sur Facebook des messages...
Des vidéos, oui.
Horrible, tu sais, des menaces parce qu'elle s'était refait un chum depuis leur séparation. Il ne l'acceptait pas. Il a volé son cellulaire pour prendre des messages de messages amoureux, probablement, de Daphné avec son nouveau conjoint, sa nouvelle flamme. Et ça l'a rendu furieux. La police a passé complètement à côté de ça parce qu'ils n'ont pas investigué le statut et les antécédents du gars. Alors.
Et même après le meurtre de Daphné, il avait continué à faire des vidéos, là. Il faisait semblant de rien.
Même en prison.
Oui. C'est quelqu'un qui ne comprendra jamais. Il va sortir à un moment donné de prison, là. Mais c'est quelqu'un qui ne comprendra jamais. Mais je vous pose la question. fut un temps où les policiers, dans les années 60, 70, 80, 90, puis ça, je le ressentais. Moi, je restais au centre-ville de Québec. Je ressentais que les policiers pouvaient agir en bon père de famille avec des gens, avec des jeunes. On dirait qu'aujourd'hui, tout ça a été remplacé par des cases. Donc, on coche les cases, puis après ça, on regarde les cases qui sont cochées. Et si ça correspond à quelque chose qu'on nous a enseigné, bien là, on peut y aller. Mais si les cases ne sont pas toutes cochées, là, on risque de se faire taper ses doigts. Donc, on va y aller avec la procédure. Mais dans le temps, un policier qui sentait qu'il y avait une soupe chaude, là, ben il poussait un peu plus loin. Là.
Ça ne devrait pas être différent aujourd'hui. Ça ne devrait pas être différent aujourd'hui. Le code criminel, il n'y a pas de case. Là, t'sais. Il y a un crime qui a été commis, menace. Vol, c'est quand même assez simple. Et puis, normalement, tu dois intercepter l'individu, surtout quand il s'en prend à une jeune fille. À 5 heures du matin, il l'a suivi. Il l'a pas séquestré, mais pas loin. Il a pénétré dans son véhicule à son insu. Il est rentré dans le dépanneur. On a des photos de ça. T'sais, c'est l'enfer. Là. Parce alors, que là... moi, si ma fille était dans une situation comme ça puis que la police laissait faire ça, ouais. Il arrive à 4 policiers. C'est parce qu'il estime qu'il y a un certain danger spontanément. 4 policiers à 5 heures du matin dans un dépanneur à Saint-Hilaire, c'est pas normal. Il y a une expectative, il y a une menace, il y a un risque. Il y a quelque chose de dangereux qui se produit. Ils retournent chez eux puis ils le laissent en liberté. C'est quoi cette affaire-là? Au moins, tu dois le neutraliser, l'amener au poste puis dire, écoute, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire puis pourquoi, là? Pourquoi tu t'en prends à cette jeune fille-là?
Parce qu'il y a certainement
qu'apporte plainte ou pas, ouais. Ça n'a aucune importance. Il faut protéger la fille, puis des fois, sans même qu'elle le demande de façon spécifique.
Parce que le policier a certainement des cases à cocher. Parce que ce que l'avocat dit, c'est que la politique en matière de violence conjugale n'aurait pas été appliquée correctement. Les policiers ajoutaient l'exigence d'une menace ou d'une blessure corporelle, ce qui n'est pas censé être le cas. Donc, les policiers avaient choses là, à vérifier. Oui. Mais attendez un peu, là. Si la vie d'une jeune fille est en danger, elle craint son ex. Le policier, peux-tu faire fi de ça puis dire, t'as peu, là, j'ai une jeune fille d'autour de 20 ans, avec quel âge Daphné?
Elle avait 17, je pense. Elle était en bas de 20.
Puis elle craint de son ex, je pense que je vais y aller avec, chercher son cellulaire. C'est-tu encore possible, ça, des policiers comme ça en 2023?
Oui.
Je pense que oui,
sûrement.
Mais le problème étant que s'ils omettent, justement, là, de ces petites cases-là, puis ils vont pareil, ils vont-tu se faire taper sur les doigts?
Ah, je sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu aussi une plainte en déontologie policière. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé en onde à ce moment-là. Et la commissaire déontologie policière a rejeté la plainte en disant que les policiers avaient bien agi, justement parce qu'ils avaient respecté le protocole de violence familiale à Saint-Hilaire.
Voilà.
Et aussi qu'il n'y avait pas eu toute la formation nécessaire, les agents en question, au moment pertinent où Daphné avait demandé l'aide de la police. Cette affaire-là est en appel.
Ouais.
On a contesté cette décision-là, donc c'est en suspens pour l'instant. Mais il a été question, effectivement, au niveau de la déontologie, de la grille, de protocole, des
c'est
coches,
ça.
Comme tu dis, puis des petits carreaux. Puis c'est malheureux que ça soit rendu dans la police, effectivement, que tu sois rendu à voir, bon, mais là, non, monsieur, vous répondez pas, tu sais, on se sert plus de notre tête, on est géré par des organigrammes, puis par des questionnaires, puis peut-être qu'à la fin de l'année, ils sont évalués par le chef de police à partir de ces questionnaires-là, puis qu'on va leur dire si on les réengage, on va leur dire si on a des primes, si on a des belles vacances, etc. En tout cas, si c'est comme ça qu'est rendu la police, mais ça donne des résultats comme on en a vu à Saint-Hilaire en 2017.
Si vous êtes policier, ça vous tente de participer à l'émission en passant par texto. En tout anonymat, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Mais tu sais, je sais que les policiers, tu sais, mes grands-pères m'en ont raconté. Mes grands-pères, chacun de leur côté, étaient policiers. Là. Il y en a un qui était police provinciale, puis l'autre était pour la police municipale. Puis tu sais, il me racontait des histoires qui se passaient. Puis je me dis, mais voyons donc, c'est comment les policiers peuvent rentrer dans un bar arrêter une bagarre en frappant sur les individus, puis les ramenant à la maison, puis la bonne femme, c'était elle, la police rendue à la maison. Tu sais, il me racontait ces affaires-là. Là. La chicane était pognée dans le bar, il pognait le gars voulait pas se faire arrêter, fait qu'il était obligé de l'assommer. Après ça, il l'embarquait dans le char, il l'amenait à la maison, puis rendu à la maison, il disait « Madame, votre mari s'est battu », puis là, la bonne femme l'engueulait. C'était ça, dans le temps, la justice.
C'était un bon film pour Michel Côté, ça.
Oui, mais c'était ça, puis il me racontait ça, mais il était un peu plus cow-boy dans le temps, les policiers.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr que, tu sais, il y a peut-être eu un peu d'exagération dans certaines arrestations.
On a civilisé l'affaire davantage.
Mais tu sais, souvent, ceux qui battaient leurs femmes payaient le prix quand les policiers arrivaient.
Oui, c'est ça, je comprends. Mais oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à l'évolution des comportements des policiers au Québec, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits pour faire en sorte qu'on ait une police qui soit mieux organisée, mieux formée, avec des protocoles, avec des façons de faire pour éviter qu'il y ait des abus, c'est certain. Mais en même temps, il y a des systèmes qui ne devraient pas exister. Puis comme tu dis, si à Saint-Hilaire, ils sont obligés de suivre un protocole puis une formation, puis ça ne répond pas aux exigences du protocole, donc on ne suivra pas Daphné Huard jusqu'à chez elle, donc elle va se faire assassiner. Ce que l'avocate fait dans le dossier des parents de Daphné, décédée, c'est d'attaquer non pas les policiers individuellement, mais le service de police dans son ensemble pour dire « Vous avez instauré une politique qui n'a pas de bon sens, puis vous avez exigé des critères pour intervenir dans un cas de violence conjugale qui sont inacceptables et qui ont causé le décès de cette jeune fille-là parce que les policiers sont restés au poste de police plutôt que de l'escorter dans un délai rapide et plutôt que de coffrer ce gars-là, Anthony, ou de le neutraliser au moins pendant quelques heures avant l'événement pour qu'il ne puisse pas tuer son ex-copine. » Alors ça, c'est bon. Moi, je trouve, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, moi, je rêve d'une police qui soit quand même assez libre de faire des choses puis qui puisse se servir de sa tête. Mais dans des cas de décès, là, je suis assez sévère.
Maître Bellemare, dossier, je ne sais pas si on va s'entendre sur ce dossier-là, parce que pour certains, c'est banal, sauf qu'il y a eu mort d'homme. On parle d'un jeune homme de 19 ans qui roulait à une vitesse plus que la limite permise, qui arrivait dans une courbe. Et de l'autre côté, on avait un homme autour de 50 ans qui... En roulant, s'est aperçu qu'il y avait une belle petite famille de canards qui voulait traverser la rue. Donc, voulant bien faire, il a empiété avec son camion et sa remorque sur le sens inverse, ce qui fait en sorte que le jeune qui arrivait à toute vitesse l'autre côté s'attendait pas à ça. La moto s'est couchée sur le côté et l'homme a été, le jeune homme a été éjecté de sa moto et malheureusement, le jeune homme est décédé. Il a obtenu sa sentence aujourd'hui. On parle d'une peine de prison ferme de 8 mois de prison et à cela, on lui ajoute 3 ans où il ne pourra pas conduire un véhicule automobile à sa sortie de prison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de sentence-là? 8 mois de prison, est-ce que c'est suffisant? Et de l'autre côté, le 3 ans à ne pas conduire de véhicule, est-ce que c'est suffisant? Puis je répète, là, on parle de mort d'homme. Fait que peu importe, tu sais, de bord ou de l'autre où vous êtes, tu sais, on juge pas ça. Là. On parle de mort d'homme. Moi, j'ai l'impression que ce soit 8 mois ou 2 ans, le gars va devoir faire de la prison pour ce qu'il a fait. Moi, c'est l'autre côté, la réhabilitation. Le gars, c'est pas un criminel. Il va être considéré comme un criminel. Mais le gars, ce n'est pas un criminel. Il s'attendait pas un jour à tuer quelqu'un. Il va devoir faire face au fait qu'il a tué un jeune homme de 19 ans en raison de son manque de jugement. Mais de l'autre côté, pour sa réinsertion, l'empêcher de conduire pendant 3 ans supplémentaires suite à sa sortie, je trouve que c'est particulier.
Moi, je pense que c'est l'exemplarité, là, parce que, tu sais, dans le code criminel, on prévoit des critères. On appelle ça le sentencing, c'est-à-dire, en bon français, c'est-à-dire les critères qui s'appliquent quand c'est le temps de déterminer une peine. Et parmi ces critères-là, bien, il y a l'exemplarité, c'est-à-dire le message que tu envoies à travers la peine. C'est quoi le message que tu envoies? Est-ce que c'est une peine grave? Est-ce que la population qui va entendre ça ou les gens qui sont susceptibles peut-être de commettre ce genre de crime-là, ou les gens qui sont susceptibles d'avoir ce genre d'attitude-là, répréhensible, est-ce qu'ils vont comprendre, puis peut-être qu'ils vont dire, ben ouais, moi j'ai pas le goût de pogner 8 mois, puis 3 ans d'interdiction de conduire, donc je le ferai pas, puis j'arrêterai pas quand il y a des canards dans le chemin, tu sais. C'est l'exemplarité. Je pense que c'est ça qui a amené le juge à déterminer cette peine-là. Mais honnêtement, c'est quoi la différence? C'est une négligence criminelle causant la mort.
Oui.
Il est quand même à sens inverse dans le chemin.
Ouais.
C'est pas rien. Il n'y a pas un dépassement illégal à droite, là.
Non. Puis il roulait pas en passant, il roulait même pas à 10 km/h.
Non, mais c'est un sacré sans dessin. Là, ouais. Écoute, toi, tu t'en viens dans ta voie, puis tu prends ton élan pour prendre l'autoroute, mm-hmm. Puis t'as un gars avec un trailer, puis il était immense, il prenait toute la place, là. Alors, moi, je trouve que c'est... le 8 mois, ça me surprend à la baisse.
Ça aurait pu être 2 ans.
J'aurais pensé que ça aurait été plus que ça.
Oui.
Honnêtement, 2 ans. Puis la question de la suspension... Moi, j'ai l'impression que l'interdiction de conduire, c'est une espèce de monnaie d'échange. Tu sais. On dit, OK, on va avoir une peine d'imprison plus faible, mais on va te clencher sur l'interdiction de conduire. Parce qu'en réalité, il est interdit de conduire pendant qu'il est en prison, pendant 8 mois, forcément qu'il ne peut pas conduire.
Mm-hmm.
Puis après ça, tu as 3 ans, ça fait à peu près 4 ans au total. 4 ans où tu ne conduis pas. Alors, à chaque fois que tu te fais reconduire par quelqu'un, tu penses que tu as commis un crime, tu penses que tu as tué quelqu'un par ta négligence criminelle, ça te revient, puis finalement, c'est une forme de souffrance, c'est une forme de réflexion par rapport au crime que tu as commis. Mais ça aurait pu être 2 ans sans interdiction. Ouais. Moi, j'aurais aimé mieux 2 ans sans interdiction.
Ben, moi aussi.
Mais,
parce qu'on parle pas d'un criminel notoire.
Non, mais le gars, lui, il a mieux faire 8 mois. Puis après ça, je comprends qu'il y a interdiction de conduire, mais il n'y a pas que la conduite automobile dans la vie. Là.
Ouais.
Puis tu peux te faire conduire, tu peux prendre des taxis, tu peux avoir des amis,
sauf
tu peux avoir une famille.
Ça dépend où tu restes aussi.
Oui, oui, je sais. Ça un, deux. Oui, ouais, mais là, je ne sais pas où il reste, mais ouais, lui, il ne reste peut-être pas dans le fond du bois. Là.
Ben, il serait dans le secteur de Joliette.
Peut-être. Ben non, c'est quand même Joliette, c'est quand même une grande ville. Il y a quand même des facilités de transport dans ce coin-là. Mais lui, probablement, qui aimait mieux avoir 8 mois, puis peut-être avoir jusqu'à 5 ans d'interdiction de conduire.
Ouais.
Parce que. Ça t'empêche pas de respirer, ça t'empêche pas de travailler, ça t'empêche pas de voir du monde, ça, t'as ta pleine liberté, t'as pas de couvre-feu. Alors, finalement, il s'en sort assez bien, le monsieur, je pense. Là.
Parce que c'est la mort, tu sais, il a causé la mort.
Les canards aussi, en passant, s'en sont bien sortis.
Ouais.
Une joke plate, là, mais quand même, tu sais, faut voir.
Mais c'est le bon réflexe à avoir quand on est sur l'autoroute, on voit ça, tu sais, c'est en premier, regarder qui arrive en arrière. Là.
Mais moi, je te dis, là, sur le chemin, là, de plus en plus, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'automobilistes au Québec. Là. Je ne sais pas si tu es comme moi. Toi, tu es en moto, tu dois en voir plus. Là. Mais des comportements sans dessin, là, je ne sais pas si c'est proportionnel au nombre de véhicules par rapport à il y a 30 ans. Il y a peut-être 2 fois plus de véhicules qu'il y a 30 ans au Québec. Là. Probablement 2 fois plus. Peut-être même 3 fois plus qu'il y a 40 ans. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de sans dessin sur le chemin? 2 fois plus d'exactions sur la route, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Tu fais Québec-Montréal d'une traite, puis si tu comptes le nombre de cocos qui se tassent quand il y a quelqu'un qui rentre sur l'autoroute puis qui te coupe le chemin, là, sur la voie de gauche.
On conduit mal au Québec.
Qui est illégal, l'autre qui te tape dans le cul en arrière, l'autre qui roule à 170, qui flash pas,
on conduit vraiment mal. Si je peux me permettre une petite critique...
À partir de Saint-Hyacinthe jusqu'à Montréal, ouais. Le dernier tronçon, là, où ça roule à peu près 70, là, c'est encore pire.
C'est un cauchemar. Parce que
là, ben oui, c'est ça. Alors, c'est...
Mais si je peux me permettre une petite critique, là, on a ouvert les vannes là, pour les nouveaux arrivants, là, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas au courant de tous les panneaux, là. On en pogne des fois sens contraire. Tu sais, il y a de ça 3 semaines à peu près, centre-ville de Québec, là. 2 fois en ligne sens contraire. Les gars, faut suivre les flèches. Denis qui nous écrit, il dit, étant camionneur, j'en vois régulièrement de ce type de comportement.
Eux autres, c'est pire encore parce qu'ils ont une vue panoramique en plus sur toutes les niaiseries. Puis eux autres, ils voient les gens qui cellulaires puis qui textos au volant.
Oui.
Parce que ça, c'est les exactions qui sont pas nécessairement visibles,
ouais.
Sauf quand tu suis le coco longtemps, puis tu vois qu'il frôle la ligne, puis qu'il se promène entre les 2 lignes, puis qu'il roule pas trop vite.
Les clignotants aussi.
Il roule à peu près. Ouais, clignotants.
Il y en a qui pensent que c'est une option.
Non, non, ça n'existe plus, les clignotants, ouais. Ça. Alors, tu sais, je regarde ce gars-là qui fait attention au canard, puis qui s'en va à sens inverse dans le chemin, puis qui tue quelqu'un, motocycliste, qui lui est parfaitement dans son droit, qui a commis aucune erreur. Puis je me dis, peut-être qu'il va payer pour tout le monde, ce gars-là.
Ah, c'est clair.
Moi, quand je vois ça, je me dis, bien, t'es un sans-dessin, puis je souhaite que la peine que t'as obtenue, la condamnation, serve de leçon à tous les sans-dessins du Québec qui savent pas chauffer puis qui sont sur la route en ce moment.
Mais c'est une erreur qu'il y a beaucoup de gens qui auraient fait, là.
Je sais pas, je suis pas
sûr. On se lève pas le matin en voulant
tuer quelqu'un. Arrête, là, tu me décourages.
Lui, là, c'était un dimanche ou un samedi, il faisait beau, il voit une famille de canards, il regarde en arrière, il y a rien, décide d'empiéter un peu sur le chemin route inverse, puis il a tué un jeune. Tu sais, tuer quelqu'un, là, c'est lourd de sang sans sacrifice, il va avoir à vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est pas un criminel, tu sais. Il y a des taponneux qui vont pogner des 8 mois de prison, tu sais. Lui, c'est ça, là, il n'a pas taponné personne, il ne voulait pas commettre de crime. Malheureusement, il en a commis un. C'est un dossier criminel, pas le droit de sortir, pas le droit de conduire après sa sortie de prison. Puis il va avoir à vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Là, il a porté sa cause en appel, là, Éric Rondeau.
Si le motocycliste avait été en auto, serais-tu mort?
C'est une bonne question.
Serais-tu une face à face? La surprise, des fois... Moi, j'ai eu des clients... au bureau qui ont fait des face-à-face.
Oui.
Avec des colons qui s'amenaient à sens inverse, qui n'avaient pas d'affaires. OK? Puis là, je leur demandais, ils ont survécu, évidemment. Il y en a qui n'ont pas survécu, ou auquel cas, c'est la famille qui vient me voir, mais des fois, c'est le gars a survécu. Puis là, ma question, c'est toujours la même. Pourquoi tu ne l'as pas évité?
Mm-hmm.
Puis la réponse est simple, j'ai pas eu le temps.
C'est ça.
Comment ça? Comment tu peux ne pas avoir le temps d'éviter une auto?
Tu sais, dans mon émission du midi, là, je me préparais pour l'émission du midi, puis j'étais dans mon bureau, puis je me suis dit, et si ça avait été un cycliste? Tu sais, qu'on essaie d'éviter, puis on empiète sur la voie inverse, comme on fait régulièrement. Moi, je le fais régulièrement. Là. Il y a des cyclistes à droite, je leur laisse un petit chemin. Je regarde, bien entendu, qu'est-ce qui arrive l'autre bord, mais je leur laisse un espace pour ne pas les frapper.
Ouais. Je fais un face-à-face. Il aurait évité l'auto, mais il aurait pris le clos, puis il serait peut-être tué
pareil.
Non,
c'est pas ça que je dis. À la place des canards, c'est un cycliste. Moi, je me tasse pour y donner comme le chemin libre, pour pas passer trop proche de lui. J'empiète sur la voie inverse, puis le jeune arrive, puis il se tue. Je fais-tu 8 mois de prison? C'est bonne question, hein?
Mais je suis à l'envers quand même. C'est le fait d'être à l'envers qui est le problème principal.
Ouais.
Il est à l'envers du trafic, puis il est dans une voie où l'autre prend sa swing pour prendre l'autoroute, je me trompe pas, il est dans une courbe.
Non,
là,
c'est vraiment une courbe. C'est une route de 70 km/h ou 90 km/h, puis il dépassait de 20 à 30 km/h la vitesse permise, le jeune. Mais cela dit, effectivement, il n'y avait pas d'affaire dans l'autre voie, mais je me lève pas le matin, moi, en me disant je vais probablement tuer quelqu'un aujourd'hui, puis je pense que c'est la même affaire pour...
Mais toi, tu as déjà vu ça dans le trafic. Tu m'as déjà raconté que tu avais déjà vu quelqu'un sur l'autoroute de la Beauce, je pense, qui était à sens inverse.
Sens inverse, 120
km/h. Moi, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. J'espère que je ne verrai jamais ça.
Ben, je vous le souhaite parce que...
J'ai jamais vu quelqu'un à sens inverse sur l'autoroute.
Je me suis sacré.
Il paraît que ça arrive assez souvent.
L'autoroute de la Beauce, là, très souvent. Puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi que ça arrive, mais tout le temps, un petit peu plus haut que les chutes Chaudière, là, dans ce secteur-là, moi, ça m'est arrivé au moins 3 fois. Là, je vous dirais de 2006 jusqu'à 2010.
Comment
là,
tu
au
fais
moins
pour arrêter le
fois.
CAF? T'appelles le 911? Tu fais quoi?
Non, je me crissais dans le fossé. Là, je me crissais dans les herbes longues.
Là, peux-tu essayer de, au moins flasher? Là? Parce que t'as pas même...
Ben oui.
Lui, il s'en vient, le coco, puis il pense qu'il est dans sa voie.
Il pense qu'il est sur un boulevard. Tu sais, j'ai jamais pris la peine de revirer de bord pour le suivre. Là,
mais non, mais c'est parce que t'ajoutes au problème. Là, tu deviens le deuxième véhicule.
Ben ouais, c'est ça.
C'est toi qui peux tuer quelqu'un.
C'est ça.
Alors, c'est un méchant problème. Mais en as-tu un protocole là-dedans au Québec? On a-tu
c'est le 9-1. Il y a un gars qui est sens contraire.
9-1.
Ben, ce serait mon réflexe. Là.
OK. Puis 9-1, ils vont dire quelle auto, quelle couleur. Puis là, ils vont passer une demi-heure.
On va envoyer une patrouille.
Oui. Vous êtes qui?
Est-ce qu'on est suffisamment sévère avec les chauffeurs au Québec?
Ben moi, je suis dans cet article-là. Là, puis,
vous êtes dans cet article-là?
Ben oui, c'est le devoir qui m'a appelé. Puis ils m'ont dit, moi, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je trouve qu'au Québec, on est très bien. Parce que, tu sais, il y a deux. Évidemment, j'ai parlé du No Fault, qui est mon dada préféré. Ils n'ont pas parlé dans l'article, par contre, là. Mais ils ont ciblé très bien la question du .05. Et puis, au Québec, je pense que le gouvernement est frileux d'imposer des peines aux automobilistes. Parce que quand tu regardes les peines pour les excès de vitesse, malgré les changements qui ont été apportés au Code de la sécurité routière, on a au Québec des peines qui sont moins sévères. On a des interdictions de poursuite dans les cas d'actes criminels, puis on n'a pas de .05. Alors, on est la seule province au Canada à pas avoir le .05. .05, c'est quoi? C'est qu'à partir de .05, d'alcool dans le sang, tu n'as pas un dossier criminel, mais tu as une sanction administrative. Et tu peux perdre ton permis de conduire pendant 30 jours, puis perdre ton char. Au Québec, c'est considéré comme un sacrilège, parce qu'on dit, ça n'a pas de bon sens, 0.05, déjà 0.08, on ne peut plus boire, puis on ne peut plus... Mais c'est prouvé qu'à partir de 0.05 d'alcool dans le sang, tu as 2 fois plus de chances d'être impliqué dans un accident mortel. C'est mondial. Et la plupart des pays ont des normes inférieures à 0.08, qui ne sont pas criminelles, mais qui sont administratives, mais il y a quand même un message, une sanction. Et au Canada, on est la seule province à ne pas avoir de mesures de cette nature-là. Puis le gouvernement de tout temps, le PQ, les libéraux, la CAQ n'ont jamais voulu l'imposer. Ce qui me fait dire, moi, qu'on n'est pas assez sévère avec les automobilistes. Mais en même temps, il y a des raisons à ça, c'est culturel. Le territoire est immense. On a 60 000 km de route au Québec. Les distances sont importantes.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de secteurs où tu n'as pas transport en commun, où les gens sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler. Ils vont faire une heure et quart, une heure et demie pour aller travailler, une heure et quart, une heure et demie pour revenir. On pèse sur le champignon, on est pressé. Puis l'été est court, fait qu'on en profite. Quand il fait beau, on pèse sur le champignon. Et puis, il y a une tolérance. Puis les gouvernements sont gênés d'imposer des sanctions plus importantes dans les cas de... dans les cas d'abus ou d'excès. Bien.
Mais les technologies avancent, là. Maintenant, le tableau de bord vous observe. Moi, avec la gang de Bernier Auto, là, ils me prêtent des véhicules chaque lundi. D'ailleurs, je pense que j'ai un véhicule comme vous, là.
Un Toyota.
En prêt, là. Mais non, c'était pas un Toyota, dans mon cas, là, du moins.
Puis, j'ai pas les moyens d'un animateur de radio.
Les technologies...
un Toyota RAV4.
C'est une voiture qui est prêtée une journée. Vous avez un Toyota RAV4?
Bien, okay.
Très bonne voiture.
Oui,
mais,
part l'hiver.
Ben oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les technologies avancent, puis le tableau de bord, à l'intérieur du tableau de bord, il y a des yeux magiques, puis ils regardent votre regard. Et si jamais, Maître Bellemare, je suis 3-4 secondes à ne plus regarder la route, là, le véhicule m'avertit. Donc, okay. Il peut m'avertir en faisant vibrer le volant, il peut m'avertir avec un signal sonore, puis dire « regardez la route, regardez la route, regardez la route ». Pour ceux qui textent régulièrement, là, peuvent se faire avertir aussi par le véhicule. Okay. C'est rendu, la technologie avance à grands pas, puis peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, si vous êtes drogué, si vous êtes sous, l'œil magique va être capable de le détecter, puis il va juste dire au char, là, toi, tu arrêtes sur le pas côté de la route, puis ça prend un conducteur qui est à jeun dans ce char-là.
Mais les kilomètres, on devrait en avoir dans tous les autos, ça devrait être, comme un anti-pollution autrefois, là, tu sais. Ça devrait être imposé. Le gouvernement fédéral devrait, dans tous les véhicules neufs, un peu comme là, les véhicules neufs, depuis, je sens, c'est depuis 2018, tu as une caméra de recul, là.
Oui.
Au Canada, c'est partout pareil. À un moment donné, tu as eu le Transport Canada a dit, tous les véhicules neufs, quand tu startes, les lumières allument en plein jour. Le monde dit, hey, c'est quoi ça? On gaspille de l'énergie. Mais je comprends. Mais c'est clair. On voit le véhicule plus loin. C'est pas pour toi qui conduis. Toi, tu vois clair. C'est pour l'autre qui te voit pas. Là, il va te voir plus facilement. Je te cite un extrait de l'article qui s'appelle « Le Québec est-il suffisamment sévère pour les chauffeurs? » Ça a sorti dans le Devoir du 2 semaines. Très intéressant. On dit ceci. « En Norvège, les punitions peuvent atteindre 10% du revenu annuel. En Finlande, les excès de vitesse sous le seuil des 20 km sont sanctionnés par un barème fixe. Le dispositif complexe lié au salaire mensuel. » S'applique au-delà de ce seuil. En 2004, un industriel a payé 170 000 euros. OK, traduire en français, ça faisait 250 000 $ pour avoir conduit à 80 km/h dans une zone de 40.
OK.
Eux autres, ils vont sur le salaire. Plus tu gagnes cher, plus tu payes cher. Au Québec, la même faute aurait coûté 350 $. Alors, tu comprends-tu? Alors, c'est sûr qu'on est moins... Alors, ce gars-là, lui, s'il était au Québec, il aurait payé des pinottes.
Mais Maître Bellemare, qu'est-ce qui nous empêche de mettre des radars dans les quartiers résidentiels?
C'est pas
des photoradars.
Non, mais c'est pas...
Qu'est-ce qui nous empêche de mettre plus de flics dans les quartiers résidentiels? C'est politique aussi, parce que dans les quartiers résidentiels, là, les véhicules roulent à 80-90 km/h dans les zones de 50 ou dans les zones de 30, puis ils se font jamais achaler. Moi, il n'y a rien qui me tue le plus que quand je suis sur le boulevard Champlain à minuit, puis il y a un appareil de photoradar là, l'hiver. Je me dis, OK, ça, c'est vraiment un perceveur de taxes, là. Mais si on met ça directement dans un quartier résidentiel... Ça, c'est un appareil qui sauve des vies. Il perçoit des taxes aussi, mais c'est un appareil qui sauve des vies, là.
Je le sais. Mais les Québécois ont un rapport contradictoire face à la conduite automobile. Moi, j'ai toujours trouvé ça. Je me souviens quand j'ai eu mes premiers débats sur le no-fall, puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Comment se fait-il qu'une personne qui tue un enfant en état d'ébriété n'a pas à payer les dommages à partir d'un recours qui l'exposerait à une poursuite civile? Alors là, les gens me disaient « Oui, je suis d'accord. Moi, si mon enfant se fait tuer, je vais poursuivre le chauffeur. » Puis là, après ça, ils disaient « Ouais, mais en même temps, si c'est moi, je ne suis pas un criminel. J'ai juste pris un coup, j'ai tué un enfant. Je ne suis pas un criminel. Alors pourquoi je devrais payer, puis mes enfants devraient payer? C'est pas eux autres qui ont tué l'enfant. » Tout croche. Des comportements tout croche. Alors là, les gens vont dire « Oui, je suis d'accord pour qu'on mette des photoradars près des écoles, mais pas mon école. » Parce que moi, le matin, des fois, je suis pressé. J'ai pas le goût de pogner une étiquette de 250 $ le matin parce que j'ai dépassé la vitesse de 10 km en apportant mon style parce que je suis en retard dans une réunion de bureau. Tu remarqueras ça. Les gens sont d'accord avec des mesures plus sévères en autant que ça ne les touche pas. Les Québécois sont comme ça.
Parce que ce qui me marque...
Moi, j'ai réalisé ça depuis une trentaine d'années, puis dans plusieurs dossiers, tout ce qui touche la criminalité routière, les excès de route.
Ouais. Ce qui me marque à chaque fois, Maître Bellemare, puis tu sais, je travaille un peu sur mon terrain, je regarde un peu ce qui se passe dans mon quartier, puis je dirais que des fois, ça me rend un peu fou là, d'entendre les moteurs révolutionner là, sur une rue où on peut pas rouler plus qu'à 30-40 km/h. Puis là, moi, je suis mon terrain en chess pour impressionner les voisines, tu sais, pour qu'ils perdent pour qu'ils perdent toute connaissance.
Pour qu'ils déménagent.
Puis là,
quand
je les vois passer, puis je me dis, tiens, ben ça doit être, mettons, des livreurs de restaurants qui sont pressés, ça doit être des gens qui sont pas habitués de la place, qui roulent à cette Tesla. Non, c'est mes voisins, Maître Bellemare.
Oui, puis ça, c'est gênant, tabarnouche.
C'est mes voisins qui roulent à des vitesses de fou dans leur propre quartier.
Mais souvent, c'est ça. Bien, tu remarqueras, dans les écoles, moi, j'ai des enfants qui allaient à l'école Saint-Jean-Bercmar. J'en ai quatre qui ont fait cette école-là, les séminaires des Pères Maristes. C'est chemin Saint-Louis, Charles-Fitzpatrick. Et écoute, moi, je demeurais dans la rue Charles-Fitzpatrick. Il y avait une limite de 30. Puis je voyais passer les parents, puis des gens que je connaissais, là, puis ils m'envoyaient à main, là.
Oui, 60-70
km. Ils m'envoyaient à main, là, le câble, là, tu sais. Puis, tu sais, il est venu à la fête de mon fils la fin de semaine d'avant, là.
Ouais.
Puis il m'envoie la main, là, puis il roule, mais manifestement, beaucoup trop vite. Puis c'est ça. Alors, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas le voir, puis tu dis, peux-tu ralentir? Mais moi, ce que je faisais, je faisais la main, tu sais. Je voyais arriver un câble, là, parce que j'étais sur le coin d'une rue. Alors, c'est sûr que le gars qui part du coin de la rue, lui, t'as pas le temps de le voir assez, mais tu le vois s'en aller une fois qu'il est trop loin puis qu'il te voit plus.
Mm-hmm.
Mais l'autre qui s'en vient dans le sens inverse puis qui va ralentir peut-être au stop si on est chanceux, lui, là, tu peux y faire signe, tu sais, avec ta main. Là. Dis, baisse la vitesse, coco, là.
On va faire un test.
C'est peut-être la meilleure façon.
On va aller au téléphone voir s'il y a quelqu'un. Allô, boulevard!
Allô!
Salut! Ça va très bien.
Moi, je suis un gars de 60. Quelques années, puis ayant conduit toute ma vie, j'ai eu la chance, jeune, de faire de la course de moto sur des tracks dans l'Ouest canadien.
Ouais.
Ce qui m'a fait développer, mettons, un sens du réflexe peut-être un petit peu plus que la moyenne, puis j'ai réalisé que, avec les années, le problème vient du départ complètement. Les gens, quand ils apprennent à conduire, ils sont mal appris. C'est là le problème. Si tu apprends à la personne comme il faut, qu'est-ce qu'il y a dans les mains, que ça tue du monde, puis que c'est une arme, puis tout, plein d'autres choses, ça diminuerait d'au moins là, 50% des mortalités sur la route là, par année. Là.
Merci, monsieur.
C'est mon point de vue, mon cher. Je voulais juste dire ça à tout le monde.
Très bien, merci de ton appel. T'es mon premier appel dans Marceau le soir sur les ondes de boulevard.
Mais
t'es mon meilleur jusqu'à maintenant.
C'est bien correct.
Salut. Salut. Merci. Bye-bye.
Mais tu sais qu'il y a un bon gouvernement, il y a quelques années, je pense que ça a duré une quinzaine d'années, qui a décidé d'abolir les cours de conduite.
Oui.
Te souviens-tu de ça?
Oui, ouais, je me souviens de ça.
Quelle façon extraordinaire de banaliser la responsabilité sur la route. Tu sais, tu dis, tu vas avoir un permis, tu as 17-18 ans, tu vas avoir un permis, tu n'es pas obligé de suivre un cours, tu n'es pas obligé de te faire coacher, tu n'es pas obligé d'embarquer avec quelqu'un qui va te faire un peu la morale, puis qui va te surveiller, puis qui va t'assurer que tu vas aller chercher les bons rudiments. Ça ne veut pas dire que tu vas les utiliser au jour le jour, mais au moins tu vas les connaître. Et puis, tu vas avoir un permis de conduire. Bien, il y a combien d'automobilistes au Québec qui sont de cette gang-là, là, qui ont eu des permis sans cours de conduite? Moi, je trouve ça incroyable. On a besoin d'un cours pour conduire une moto. On a besoin d'un cours pour manipuler une arme. On a besoin d'un cours pour vendre des bâtisses, à peu près pour tout. Mais on n'a pas besoin d'un cours pour conduire l'auto. Ça a duré une quinzaine d'années, là.
Ouais.
Moi, j'ai jamais compris ça, là. As-tu compris ça, toi?
Non, mais en même temps, moi, je suis pas mal tout le temps sur la route, moi aussi, pas autant que les camionneurs ceux qui conduisent, les chauffeurs d'autobus, les taxis. Mais, tu sais, je les vois, là. Je vois les gens qui se rendent pas trop compte de ce qui se passe, là. Changer de voie sans mettre de flasheur, conduire au son. Quand je suis en moto, Maître Bellemare, là, on dirait que mes sens doivent être décuplés parce que je suis au Québec. Je ressens pas ça quand je suis aux États-Unis, ces autoroutes. Les gens conduisent au son. Tu sais, sont sur la voie du centre, puis ils se disent « Ah, faudrait bien que je dépasse le char qui est en face de moi. » Mais aller sur la voie rapide, commence à tasser le volant. T'sais. S'ils entendent un bip-bip, ils vont se remettre sur la voie du milieu. Parce que à cette heure, c'est plus... je vais faire mon angle mort, là. À cette heure, c'est les avertisseurs lumineux qui sont sur leur miroir. Fait que quand je
si ça flash pas, je suis correct.
Quand je suis en moto, là, j'ai... ben oui, c'est ça. Mais ils sont rendus comme ça. Mais si vos capteurs, l'hiver, sont bouchés en raison de la neige puis de la saleté et tout ça, là, ça marche plus, vos affaires. Là. Va falloir le faire, ton angle mort, mon petit gros. Là. T'auras plus le choix. Va falloir que tu deviennes un peu plus flex. Là. Mais ouais. C'est ça. Au Québec, c'est comme ça. Puis je répète, les gens qui arrivent d'ailleurs puis qui arrivent au Québec puis ils se font octroyer un permis, je ne sais pas comment ils réussissent à avoir un permis, mais qui ne connaissent pas nos affiches, je trouve ça stressant pour eux, mais je trouve ça stressant aussi pour nous autres.
Oui. Alors.
Des gens qui réussissent à avoir leur permis de conducteur de camion lourd en 48 heures, ça existe en Ontario. Ces gens-là conduisent sur nos routes aujourd'hui. Là.
Mais tu sais, le gars qui a tué je ne sais pas combien de personnes sur l'autoroute 40 ou 640 il y a quelques années.
Ah, il a tenu les policiers en haleine pendant 24 heures.
Mais sa défense. Sa défense, parce qu'il a foncé sur un automobile, je ne sais pas trop, là. Il a même pas mis les breaks, là. Je pense que c'est un hindou d'origine, là.
Mm-hmm.
Sa défense, c'est que la SAC lui a donné un permis en droit criminel. Lui, il arrive avec ça, puis il dit, moi, j'avais le permis de tuer, là. J'avais le permis de conduire, parce que la SAC lui a donné un permis de conduire, alors qu'il n'aurait pas dû en donner un. Alors, mais tu sais...
Il avait passé son permis ici ou en Ontario?
Je pense que c'était ici, mais je suis pas sûr.
Parce qu'en Ontario, moi, c'est ce qui me fait freaker des fois, c'est qu'un nouvel arrivant qui veut pas faire son cours ici, là, au CFTC, là, pendant 4-5 mois, là, intensif, où on t'apprend vraiment c'est quoi un véhicule lourd, on t'apprend les lois, puis comment ça fonctionne, puis après ça, on te fait faire des tests pratiques jusqu'à l'obtention de ton permis. C'est 4 mois là-bas. Mais en Ontario, tu peux le faire en 48 heures. Là.
Mm-hmm.
Puis les gars se ramassent dans des cours chez nous, ils sont pas capables de reculer. Un peu, là. Ils conduisent des véhicules lourds, ils sont pas capables de reculer. Là.
Puis ils savent pas lire le français à moitié aussi.
Ça, non,
mais tu sais, tourner, virer, reculer. Il y a des mots français sur nos panneaux de signalisation aussi. C'est pas tous des sigles, là. Il y a aussi quelques noms. Il y a aussi des noms de villes, il y a des noms de villages. Puis si tu parles pas français pantoute, des fois, tu peux être un peu mêlé quand tu cherches une destination. En tout cas, écoute, puis là, il ne faut pas trop parler de ça. Tu sais, les personnes immigrantes qui ont peut-être pas les mêmes facilités de conduite, les mêmes habitudes, les mêmes traditions, les personnes âgées aussi qui conduisent de plus en plus vieilles, de mm-hmm. plus en plus âgées, et des fois qui présentent certains signes de difficulté. Ça, il ne faut pas trop en parler non plus. Alors, on est dans une période, dans une époque où il ne faut pas froisser personne. Donc, on ne dit pas les vraies affaires. Puis le gouvernement est dans cette mouvance-là. Alors, il ne veut pas trop toucher à telle ou telle clientèle. Parce que si tu fais une annonce, là, la SAC là, qui fait des annonces, c'est ciblé par rapport aux nouveaux arrivants pour dire, écoutez, faites-donc attention. Puis c'est plus ça. Ben là, ça va être un tollé. C'est quoi cette affaire-là?
Quoi?
Ils sont pas pires que les autres, mais c'est ça. Alors, pendant tout ce temps-là, bien, il arrive des choses.
Comment vous pouvez présumer que ce pauvre homme qui ne sait pas lire le français, qui ne connaît pas les affiches puis qui n'a jamais conduit un char, ne sait pas conduire?
Ben oui, c'est ça. Espèce de raciste.
Ouais, exact.
Espèce de raciste.
Maître Bellemare, c'est toujours un plaisir de faire de la radio avec vous chaque lundi. Puis merci d'être là. Allez profiter du beau temps. Le soleil est encore là.
Oui, hein, il a l'air à faire très beau.
Puis on nous annonce une canicule. Radio-Canada, en fin de semaine, je regardais le tableau là, de météo de Radio-Canada et le Québec au complet est en feu.
Yes!
C'est plus bleu. Hein? C'est plus un ciel bleu avec des soleils, avec des petits bonhommes sourires puis des lunettes, là. Non, là, c'est rendu, on va tous mourir si ça continue comme ça.
Et les remparts ce soir, tes prédictions?
21h, victoire, remparts 7-1.
Oh, moi, je mettrais ça 3-2 en supplémentaire.
Ta-da! 3-2 supplémentaire,
pour
on
les
verra
remparts.
Qui a raison demain.
Les remparts.
Ce soir, beau ciel dégagé, vous allez voir les étoiles, minimum de 7 degrés. Pour ce qui est de demain, mardi, ce sera ensoleillé, maximum de 27. Puis je continue comme ça jusqu'à la fin de la semaine. 31 mercredi, 31 jeudi, 26 vendredi, 24 samedi et dimanche, on nous annonce un genre de 26 degrés. Puis la bonne nouvelle, Maître Bellemare, c'est que la nuit, ça descend à 15, 12, 11
degrés. Donc, on dort bien. On dort la fenêtre ouverte.
On va bien dormir. Merci beaucoup d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Je souhaite de passer une belle fin de soirée. Hello s'en vient dans les prochaines minutes. Là, elle attend dans le cadre de porte. Oui, ça sera pas long. Ça sera pas long. Et on se rejase demain avec justement Hello à 11h30. Puis mon chum Maxime au sport. Salut! Bye-bye.
Bye. Marceau, le soir.
L'événement Soif d'été de McDo est de retour. Rehaussez votre été avec un café glacé de torréfaction supérieure riche et velouté ou un Coca-Cola rafraîchissant petit format à 1$ plus taxe. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Vous recherchez confort et tranquillité? Insonorisation supérieure, piscine, terrasse au toit, salle d'entraînement et vue imprenable sur le fleuve. Voilà ce que vous offre le Bourg de Coulonges à Sillery. Un immeuble unique, chaleureux et sécurisé. Trouvez le logement parfait pour vous au logibourg.com.
Une fois en camping, j'ai vu un extraterrestre. Il a même placé un message dans mon cerveau. Avec Fizz, tout le monde gagne. Plus vous restez, moins vous payez. Vous ne me croyez pas? Allez voir sur fizz.ca.
Thérèse a 92 ans. Elle a déjà eu ton âge et un jour peut-être tu auras le sien. Mais en attendant, elle a besoin de ton énergie, de ta douceur, de tes rires, de ta délicatesse, de toute ton humanité. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Elle a besoin du meilleur de toi pour continuer à vivre sereinement. Inscris-toi pour devenir préposé aux bénéficiaires sur québec.ca/devenir-préposé. On a besoin du meilleur de toi. Un message du gouvernement du Québec.
L'Atelier célèbre son 11e anniversaire. Pour l'occasion, participez à une soirée originale et festive le 20 juin prochain sous la thématique New Country. Les billets sont au coût de 150$ et les profits de la soirée seront remis au Centre CASA, organisme venant en aide aux personnes atteintes de dépendance. Taureau mécanique, jongleur et cracheur de feu, troupe de danse, Blue Ridge Band, bulles, vin et bière à volonté. À l'Atelier, on fête pas à moitié. Achetez vos billets sur bistroatelier.com.
Regardez, ils arrivent et ils sont énormes. C'est le retour des soldes monstres aux instruments de musique Long & McQuaid. En juin, profitez de superbes aubaines ainsi que d'une offre d'étalement de paiement sur 6 mois sans intérêt. De plus, ne manquez pas nos événements spéciaux qui auront lieu durant la promotion. Les soldes monstres pendant tout le mois de juin, seulement chez Long & McQuaid. Long & McQuaid, là où la musique commence. Pour en savoir plus, rendez-vous au long-mcquaid.com. Québec Brew fête ses 25 ans. Du lundi au jeudi, de 16h à la fermeture, profite du Club Sandwich à 12,99. Profites-en, on t'attend. Québec Brew, Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette.
À la recherche d'une activité à faire en gang? La saison de rafting est commencée chez Expédition Nouvelle Vague. Venez descendre la rivière Jacques-Cartier, 3 heures de plaisir assurées en rafting, accompagné de guides expérimentés, passionnés et sympathiques. Réservez rapidement expéditionnouvellevague.com.
C'est-tu assez le fun aller déjeuner chez Cosmos? Chacun son plat préféré, tant qu'il y a leur petite patate. Un classique à Québec. Gros coup de cœur pour leur bacon, jambon maison et saucisse déjeuner Cosmos. À essayer absolument. Pour des déjeuners 100% fait maison, réservez lecosmos.com.
Vous connaissez certainement les suppléments Génacol pour la santé articulaire, mais connaissez-vous le nouveau Génacol Action Rapide? Avec un tout nouveau mode d'action, ce produit naturel procure des effets analgésiques pour soulager temporairement les douleurs musculo-squelettiques. Génacol Action Rapide réduit en seulement 3 heures l'intensité de vos douleurs musculaires et articulaires. Essayez-le, il est en promotion chez Family Prix jusqu'au 31 mai. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien.
LaVue.ca t'offre une promotion incroyable. L'examen de la vue gratuit et la monture gratuite, valide sur toutes les montures en inventaire. Dépêche-toi de réserver du 29 au 4 juin chez LaVue.ca. Beauport, Fleur-de-Lys et Sainte-Foy seulement. Détails en magasin. Des conditions s'appliquent. Véronique Michaud, opticienne.
Thank you, ta playlist. Mais elle t'apprendra jamais rien. Elle répondra jamais à tes textos. En tout temps, 971-1021.
À la SAQ, oui, il y a des champagnes et des Ricard, mais on a aussi des Nouyennes, des Rodriguez et des Lessard. Ton nom pourrait se joindre à tout ce beau monde puisque la SAQ recherche dès maintenant des caissiers-vendeurs. Postule en moins de 5 minutes à saq.com/caissier. Tous SAQ.
Le 1er juillet approche à grands pas. Si vous devez déménager et que vous n'avez pas trouvé votre prochain logement, la Société d'habitation du Québec et ses partenaires vous rappellent que vous pouvez obtenir de l'aide dans vos recherches. De plus, si vous êtes un ménage à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170$ par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation logement. Pour en savoir plus sur le programme ou pour du soutien dans vos recherches, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Regardez, ils arrivent et ils sont énormes. C'est le retour des soldes monstres aux instruments de musique Long & McQuaid. En juin, profitez de superbes aubaines ainsi que d'une offre d'étalement de paiement sur 6 mois sans intérêt. De plus, ne manquez pas nos événements spéciaux qui auront lieu durant la promotion. Les soldes monstres pendant tout le mois de juin, seulement chez Long & McQuaid.
Long & McQuaid, là où la musique commence. Pour en savoir plus, rendez-vous au long-mcquaid.com.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça.
Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
LVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Nous sommes le 29 mai et je trouve que ça fait radoteuse un peu de commencer le show en disant « Hey, déjà la fin du mois de mai, déjà le mois de juin! » Mais c'est vrai que ça passe très vite. Avez-vous prévu porter un peu de crème solaire dans les prochains jours? Que de belles journées qui s'en viennent! On va même dépasser les 30 degrés Celsius à Québec au niveau du ressenti dans les prochains jours. Du moins, c'est ce qu'on nous annonce. Alors, on peut officiellement dire que l'été est commencé. Mon nom est Élodie Derry. Je vous souhaite une belle soirée. Tout de suite après l'excellent chroniqueur Marc Bellemare qui a accompagné Yannick Marceau dans Marceau le soir dans la dernière heure, bien là, on laisse la place à la musique. On va avoir dans la prochaine séquence la musique des White Stripes, de Linkin Park, des Red Hot Chili Peppers. Et on commence avec un bon vieux succès d'un groupe que ça faisait un bout qu'on avait entendu. Boudoum Tish, voici Stain. On sort de...
It's been a while since I could hold my head up high. And it's been a while since I first saw you. And it's been a while since I can stand on my own two feet again. And it's been a while since I could call you. Consequences that are rendered. I stretch myself beyond my means. It's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I can say I love myself. Just like I always do. And it's been a while, but all that seems to disappear. Waiting for
the beat plays all down. Bloodbath, ribcage, soft tail.
Standing in line to see the show tonight.
Talking to myself.